Ce matin, François La Rochelle, ex-diplomate canadien, nous explique un conflit oublié par les médias, un conflit qui se déroule en Libye. Bonjour, Monsieur La Rochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Un grand merci d'être avec nous en ce lundi 20 juillet et de nous expliquer ce qui semble inexplicable. Alors, d'abord, situez-nous donc la Libye et dites-nous pourquoi le désordre règne dans ce pays.
Bon, ben la Libye, c'est ce pays-là qui est situé en Afrique du Nord, sur la côte sud de la Méditerranée, qui est situé à l'est. L'Égypte est à l'est, le Soudan au sud-est, et de l'autre côté, il y a l'Algérie à l'ouest et la Tunisie là au nord-ouest. Donc, ça vous situe un peu là, géographiquement,
oui.
Où est le pays.
Mais très beau, tout près de la Méditerranée.
Exactement. Mais c'est un pays dont la principale richesse et qui attire les convoitises, évidemment, c'est le pétrole et le gaz. On se souviendra peut-être que dans le contexte là, du printemps arabe de 2011, il y a une partie de la population s'est soulevée en Libye contre le leader de l'époque, là, Muammar Kadhafi.
Qui est mort.
Qui est mort et qui a donc perdu le pouvoir avec entre autres l'aide aussi des forces militaires de l'OTAN, surtout de France et du Royaume-Uni, mais aussi du Canada. Et depuis ce temps-là, le chaos s'est instauré dans ce pays-là.
Il n'y en avait pas de chaos dans le temps de Kadhafi?
C'est-à-dire qu'à l'époque de Kadhafi, lui, c'était un dictateur là, avec une poigne de fer.
Ouais.
La Libye, c'est essentiellement c'est un tissu de différentes tribus qui s'opposent et qui s'opposaient. Et puis Kadhafi, lui, maintenait l'unité du pays avec sa répression. C'est une dictature très dure. Mais le pays tenait ensemble. À partir du moment où Kadhafi est tombé, toutes les milices ont commencé à se combattre les unes contre les autres, avec toujours en tête l'idée de mettre la main sur le pétrole, parce que le pétrole, c'est de l'argent. Et ça permet notamment de payer les différents miliciens qui se battaient pour ces différentes tribus.
Oui.
Et donc, le chaos, il y a eu des tentatives internationales et aussi domestiques de reconstruire le pays, mais le pays n'avait aucune infrastructure, il n'y avait pas de gouvernement là, à part Kadhafi et quelques ministres. Il y avait une espèce de il appelait ça la Jamahiriya, c'était une espèce de gestion dite populaire du pays, mais qui en fait remontait toujours au leader. Ces combats entre milices profitant du vide, les islamistes ont pris une partie du pays dans la région de Benghazi, qui est à l'est là, du côté de l'Égypte. Et il y a c'était une succursale de l'État islamique dont on se rappelle là, qui était en Irak, en Syrie, ont pris une partie du territoire. Et c'est là qu'est arrivé un ancien général de Kadhafi qui s'était exilé aux États-Unis et qui a probablement aussi travaillé pour la CIA, qui s'appelle Khalifa Haftar. Et ce monsieur est arrivé d'exil, donc aussi en 2011, montré comme étant celui qui pourrait mettre fin au terrorisme là, islamiste dans l'est du pays. Et parallèlement à ça, il y avait aussi un gouvernement qui était reconnu internationalement, qui essayait de se constituer. Alors donc, Haftar a effectivement réussi à mettre un terme à cette tentative de créer un petit État islamiste dans l'est du pays. Pour ce faire, a été aidé notamment des Égyptiens, des Émirats arabes unis, et on pense peut-être même aussi des États-Unis d'une certaine époque, et maintenant c'est les Russes qui l'aident. Et ce que veut faire Haftar, c'est de prendre tout le pays. Et face à lui, il y a maintenant ce gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, dont le Canada, dont le premier ministre est un monsieur Faiz Sarraj.
Sarraj, S-A-R-R-A-J, OK.
C'est ça, qui lui est basé à Tripoli. En fait, c'est à peu près tout ce qu'il contrôle, là, c'est la capitale et un peu autour.
Mais la capitale, mais c'est déjà beaucoup?
Oui, mais le pays, c'est quand même un grand pays. C'est surtout désertique et la population habite surtout le long de la côte.
D'accord.
Mais c'est quand même un pays relativement grand. Il contrôle la capitale. Par contre, le pétrole n'est pas là du tout. Le pétrole est plus dans l'est du pays. Voilà. Alors, il peut avoir la capitale, mais il n'y a pas de revenus. Donc, c'est le nerf de la guerre, c'est dans cette région-là, c'est l'argent. Et depuis quelque temps, la Turquie est devenue un allié du gouvernement légal. Et
le gouvernement de Monsieur Sarraj.
Sarraj.
Ouais.
Et Haftar, il y a quelques mois, a tenté une offensive pour prendre Tripoli.
Ah oui, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné. Et là, ce qui se passe, justement, avec l'aide des Turcs, là, les forces de Haftar sont repoussées. Et les combats s'accélèrent. Et il y a aussi eu, lors de la tentative de la prise de la capitale par Haftar, il y a eu beaucoup de victimes civiles parce que c'était des bombardements à l'aveugle, là. Mm. Et ça a aussi créé des réfugiés. Qui maintenant non plus là, espèrent retourner dans leur région où vous habitez, mais qui sont maintenant qui sont en quête d'un retour vers leur ville d'origine. Donc, la situation actuellement, la communauté internationale, surtout les Nations Unies, essaie d'établir un cessez-le-feu et de remettre sur la voie d'une solution politique du problème libyen.
Parce qu'on est en guerre en ce moment-là.
Exactement. Et puis, alors d'un côté, vous avez les Turcs qui appuient les autorités de Tripoli, mais il y a aussi de plus en plus de présence russe. Parce que les Russes veulent aussi, les Russes se sont installés en Syrie, comme on le sait, à cause de leur appui au régime de Bachar el-Assad, mais maintenant essaient aussi de mettre les pieds en Afrique du Nord, et par l'entremise de ce conflit. Et là, on retrouve un peu le même conflit qu'on a en Syrie entre la Turquie, mm-hmm. qui occupe une partie du nord, et le reste du pays et le régime de Assad qui est aidé des Russes et aussi des Iraniens. Et on voit une espèce de réplique du conflit syrien, mais maintenant en Afrique du Nord.
Ouais.
Et ça inquiète parce que toute instabilité dans cette région-là est généralement peu productive. Et si ça dégénère, ça risque de créer des problèmes chez les voisins de la Libye, notamment la Tunisie, et bien sûr aussi dans une moins grande mesure peut-être l'Algérie. Et Égyptiens aussi prennent fait et cause pour Haftar parce qu'il le voit comme un homme fort qui peut ramener l'unité du pays. Et donc, les Égyptiens appuient aussi Haftar.
Est-ce qu'il y a des qualités, c'est des caractéristiques d'un dictateur?
Oui, probablement. Ouais. Depuis d'ailleurs, quand il est arrivé, à l'époque de Kadhafi, il était général et là, il s'est autoproclamé maréchal. Alors, il se donne lui-même des promotions.
Ouais.
ça serait probablement pas une bonne chose parce qu'essentiellement, ce qu'il veut probablement, c'est mettre les mains sur l'argent du pétrole et du gaz,
ouais.
Et s'enrichir, parce que ça ne doit pas non plus être quelqu'un de particulièrement honnête. Et donc ça augure mal, disons, pour le futur de la Libye, malheureusement.
Oui, et puis en ce qui concerne Sarraj, lui, est-ce qu'il y a un peu plus de, je ne sais pas, de bon sens?
Sarraj, lui, d'abord, il est appuyé par l'ONU. C'est le gouvernement qui a été mis en place par l'ONU suite à toutes sortes de tractations. C'est celui qui est reconnu par la grande majorité des pays à travers le monde. Et donc, lui, disons que la légitimité internationale, puis là maintenant, il est appuyé parce que les Turcs, apparemment, l'équipe avec de l'armement assez sophistiqué. Et donc, lui, disons qu'il y a une assise internationale que n'a pas Haftar, sauf les pays qui l'appuient.
Okay.
Alors, cette question-là peut durer très longtemps, mais en attendant, évidemment, la population libyenne pâtit de cette guerre, de cette bataille de coqs.
C'est très triste et inquiétant, voilà. Parce qu'on dirait qu'on essaie de rétablir la paix, mais c'est pas évident, là.
Non, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 2011 et elles ont toutes échoué. Donc, les chances que la démarche actuelle réussisse sont pas particulièrement fortes, j'ai l'impression.
Alors, faut pas déposer les armes, mais faut déposer les armes.
Il faudrait déposer les armes, mais il faudrait surtout parce qu'il y avait tout un processus qui avait été lancé par l'ONU pour instaurer une structure démocratique, en fait, en Libye. Et puis tout ça a capoté là au cours des dernières années. Et idéalement, l'idée serait, après le cessez-le-feu, de s'entendre, que Haftar et Sarraj s'entendent pour qu'on reconstruise le pays, que surtout la paix revienne et que les populations civiles arrêtent d'en souffrir.
François Larochelle, ex-diplomate, un grand merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont on parle très, très peu, le conflit oublié en Libye. Merci, à la prochaine.
Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.